Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Gisèle Cage à la présentation. Voici le titre de l'actualité de ce matin. Plusieurs incidents sécuritaires parmi les déplacés ayant fui sur l'axe Walikale-Kisangani. À la suite de l'avancée des troupes du M23, des cas de viol, torture, vol, extorsion et pillage sont signalés quotidiennement par les activistes de droits de l'homme. Première foire entrepreneuriale, genre à Mbujimayi. Une occasion offerte aux femmes d'échanger leurs expériences et de promouvoir les activités génératrices de revenus. Plusieurs femmes micro-entrepreneurs de Mbujimayi et de 5 territoires y participent, dont celles bénéficiaires des crédits agricoles de la Banque africaine de développement. Le chef des forces de défense de la SADC et le leadership du M23 AFC ont signé vendredi à Goma un accord sur les modalités du retrait de la force régionale de la SADC. En plus d'un cessez-le-feu immédiat, l'AFC M23 permet aux troupes de la SAMIDRC de se retirer avec leurs armes et équipements tout en laissant derrière elles l'armement des FARDC en leur possession. Pour analyser cet accord, nous avons le plaisir d'accueillir Onesfor Sematumba, analyste senior pour la région de Grand Lac au sein de l'organisation International Crisis Group. Ne manquez pas cet entretien exclusif avec Radio Kapi. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle du territoire de Walikale en Nord Kivu. La situation sécuritaire reste alarmante depuis l'occupation de Walikale Centre par les forces rebelles. Le 17 mars dernier, de nombreux incidents sécuritaires ont été signalés parmi les déplacés ayant fui sur l'axe Walikale-Kisangani. Une ONG locale de défense des droits de l'homme dans la région rapporte des cas de viol et d'autres incidents graves ayant entraîné de pertes humaines. Le point avec Jude Mystère Bilonda.
Cette ONG déclare avoir enregistré au moins une trentaine de cas de violences sexuelles parmi les déplacés dans les villages de Jingala, Mafombi, Mubi, Logou et Makana entre le 17 et le 23 mars dernier. D'après toujours cette ONG, deux jeunes filles qui auraient résisté au viol dans les villages Makana auraient été tuées à bout portant par leurs présumés violeurs porteurs d'armes. Les victimes des viols ont été référées vers les centres de santé de Jingala et vers celui de Bissier. Ces structures sanitaires éprouvent des difficultés pour la prise en charge de malades par manque de médicaments, vu l'afflux de déplacés dans la région, selon les responsables de cette ONG. Il évoque également plusieurs autres cas de violation des droits de l'homme. C'est notamment des tortures, des vols, ravissements et pillages. Il affirme que les conducteurs des taxis-motos qui fréquentent ces taxis sont souvent victimes de tracasseries et arrestations arbitraires de la part d'hommes armés. Les centaines de déplacés qui ont fui et sont actuellement dispersés sur différents axes à la suite de l'avancée rebelle vivent dans la précarité. Ils sont dépourvus de tout et ont tout abandonné dans leur fuite. Difficile pour les humanitaires d'accéder dans ces territoires à cause de l'instabilité sécuritaire et de l'enclavement du territoire.
En Ituri, les jeunes de la chefferie des Banyari Tchabi, située dans le sud du territoire d'Irumu, expriment leur satisfaction quant à la collaboration entre la population locale et les forces de sécurité présentes dans la région, y compris les casques bleus de la MONUSCO. Cette semaine, ils ont partagé leur avis avec le commandant des forces onusiennes en mission dans la province depuis une semaine. Selon eux, cette collaboration contribue grandement à la sécurisation de la zone. Plus de détails avec Sadiki Aboubakar.
Le général Ulysse Gomez, le nouveau commandant des casques bleus de la MONUSCO, a effectué une tournée cette semaine dans plusieurs entités de l'Ituri où les soldats de la paix exécutent leur mandat de protection des civils. L'objectif était de rencontrer ces hommes et femmes qui travaillent dans des conditions difficiles pour exécuter le mandat de protection des civils, tout en espérant le rétablissement d'une paix durable dans la chefferie de Tchabi, en proie à l'activisme des ADF. La jeunesse locale a fait part au patron de la force de la MONUSCO de son soutien aux différentes forces en présence dont les casques bleus. Jean-Pierre Bassiloko est le président du conseil local de la jeunesse.
Nous partageons une très bonne relation avec la MONUSCO qui est ici à Tchabi, ainsi que les forces de sécurité installées sur place ici. Nous faisons même des patrouilles nocturnes avec eux.
Pour sa part, le président de la société civile locale plaide pour le renforcement des effectifs des FARDC aux côtés des casques bleus et des UPDF, l'armée ougandaise.
L'unité commando qui est arrivée n'occupe qu'une partie d'un village pendant que nous en avons 26. Par conséquent, plusieurs villages restent inhabités à cause de l'absence des militaires FARDC.
Notez que le général Ulysse Gomez a visité les localités de Fataki, Komanda, Drodro et Tchabi jeudi et vendredi. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
À Kalemie, dans la province du Tanganyika, les jeunes de l'association L'élite au service du Tanganyika tirent la sonnette d'alarme face à la mauvaise gouvernance. Dans une déclaration faite hier, cette structure de jeunes constate une détérioration accrue de plusieurs secteurs de la vie, dont les Tanganyika, notamment la sécurité, les infrastructures, l'économie et le social. Ils exigent des élus provinciaux un contrôle parlementaire rigoureux et sans complaisance du gouvernement dès la rentrée parlementaire. Écoutons Charles Dubois Seya, président de cette structure, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous avons estimé nécessaire qu'avant la rentrée parlementaire, que nous puissions venir donner de la matière à nos avocats. Comme vous le savez bien, le député sont les avocats subordonnés à une obligation ou à une condition de résultat. Nous avons vite compris qu'il y a eu une léthargie et cette léthargie devrait être brisée par la population. C'est ainsi qu'à ce jour, nous avons pris l'initiative comme les élites au service du Tanganyika parce que nous sommes prêts pour la paix, pour le décollage et pour l'émergence de la province du Tanganyika. Et cela n'est possible que si les députés, que si dans les matières des institutions, parlent le même langage avec la population. Les députés sont élus avec une obligation de résultat. Dès lors que le résultat est calamité sur le terrain et que leur silence finirait par confirmer notre thèse de complicité de la mauvaise gouvernance, la population prendra un stylo rouge pour signer le sort à tout élu.
Comme annoncé dans le titre, au Kasaï oriental, la première foire entrepreneuriale a été lancée vendredi en Mbujimayi par le gouverneur de province. Cet événement sera accompagné du premier salon sur l'entrepreneuriat des femmes intitulé Mukajiwa Titembu ou Femmes d'honneur. L'objectif étant de permettre aux femmes d'échanger leurs expériences et de promouvoir les activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Cet espace offre les opportunités d'affaires pour les femmes entrepreneurs agricoles. Cette foire entrepreneuriale genre est organisée par le ministère provincial du genre, famille et enfants en collaboration avec PRISE, projet de renforcement des infrastructures socio-économiques appuyé financièrement par la Banque africaine de développement BAD. Plusieurs femmes micro-entrepreneurs de Mbujimayi et des cinq territoires participent à cette foire. Parmi elles se trouvent celles qui ont bénéficié des crédits agricoles de la BAD. Sur des stands, on peut voir des produits des champs, de l'élevage et d'autres femmes ont exposé des produits de l'agro-transformation, dont notamment du savon à base d'huile de palme, de la farine de maïs et de manioc, des biscuits, des jus naturels et bien d'autres articles. D'après Annie Moussadi, chef de division provinciale du genre, le but est d'organiser un cadre d'échange d'expérience et aussi de promouvoir pendant 3 jours les activités des femmes, mais surtout celles génératrices des revenus, les autorités provinciales, les responsables des entreprises, les hommes et les femmes d'affaires invités à la cérémonie d'ouverture de cette foire ont encouragé les femmes micro-entrepreneurs par l'achat des produits exposés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En cette fin du mois de mars dédié aux femmes, une conférence s'est tenue hier à Kinshasa, à la salle de la grande poste OCPT Gombe, sur le thème « La femme kinoise au cœur du civisme pour la transformation de la ville ». Cette conférence avait pour objectif de sensibiliser les femmes à l'autosuffisance alimentaire et à la salubrité de leur environnement. Reportage de Ben Chokuta.
Venues des quatre coins de la capitale, les femmes ont répondu présentes à l'appel. Mayam Sif Onasaka, coordonnatrice du réseau des femmes entrepreneurs sociales du Congo, a rappelé l'importance d'un environnement propre et comment transformer les déchets plastiques en une source de revenus. Nous sommes réunis pour montrer au chef de l'État qu'il y a des femmes qui peuvent apporter la solution en ce qui concerne les poubelles de Kinshasa. Nous pouvons en faire une richesse. Avec tous les déchets que nous avons à Kinshasa, nous pouvons produire du gaz, des semences améliorées pour manger bio et consommer congolais. Pour Christophe Zola, la coordonnateur de la fondation Magingoy, cette conférence représente une véritable opportunité d'autonomisation pour les femmes.
Et ce qu'on a dit aux femmes, la femme doit être artisane de la paix, en même temps du développement, mais aussi et surtout, elle doit prendre soin de son environnement, parce que l'environnement fait partie du développement aussi.
Mimi Modjaga, chef d'antenne Kinshasa du projet Transform, a encouragé les participantes à saisir les opportunités offertes par le gouvernement.
J'ai pris la parole pour encourager les femmes entrepreneurs à se formaliser. Il y a une opportunité qui leur a été donnée par le gouvernement pour formaliser et pour recevoir l'accompagnement, les subventions afin de booster leurs activités.
Notez que les réseaux des femmes entrepreneurs sociales du Congo collaborent avec des organismes nationaux et internationaux, dont ONU Femmes, pour défendre les droits des femmes, promouvoir leur autonomisation et lutter contre les violences basées sur le genre.
Retour en Ituri, le petit marché communautaire appelé Mai Yafranga, situé sur la route Bogoro-Kasenyi, est un point de promotion du vivre ensemble entre différentes communautés du sud d'Irumu, très fréquenté par les usagers de la route qui s'y arrêtent pour se ressourcer pendant leur déplacement. Ce marché est surtout connu pour la vente des cossettes, des maniocs braisés et des fruits. Ezekiel Mousalia a rencontré quelques femmes en pleine activité dans le cadre du mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Voici son reportage.
Situé en plein milieu, dans la brousse, à côté d'une petite rivière, les femmes ont surnommé cet endroit Mai Yafranga, entendez, eau d'argent. C'est ici que la plupart tirent l'essentiel de leurs revenus. Cet endroit est réputé pour être le lieu des ventes par excellence des cossettes de manioc brisés ou encore des fruits dont se servent surtout les usagers de la route Bunia-Kasenyi. Témoignage de cet habitant.
Je m'arrête ici pour acheter du manioc, songo comme on l'appelle. C'est parce que j'ai faim. En tout cas, ça m'aide beaucoup.
Ce point de vente ne constitue pas seulement un lieu d'exposition d'articles, il est aussi un endroit qui permet aux marchandes venues des différentes communautés d'échanger sur leur vécu quotidien.
Nous avons différentes tribus, les Ema, les Ndou, Ngiti, et nous vivons en harmonie ici. L'argent n'est pas en circulation. Tu vas arriver avec la marchandise, mais c'est seulement le soir que tu peux avoir quelque chose pour manger ou scolariser les enfants.
Ces femmes demandent au gouvernement d'instaurer la paix, sans laquelle, selon elles, le développement économique de la région est impossible. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Clôture du mois de la femme, les femmes du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent réaffirment leur engagement à œuvrer pour un Congo où la femme est respectée, protégée et valorisée à tous les niveaux de la République. Lors d'un rassemblement hier dans la commune des Bandalungwa, elles ont été sensibilisées à l'importance de se rendre utile à la patrie en toutes circonstances. À cette occasion, leur président national Norbert Basengezi Tintima leur a remis du matériel aratoire, des semences et des machines à coudre pour favoriser leur autonomisation. Fifi Ingazé, présidente de la Ligue des femmes de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, s'exprime à ce sujet au micro de Billy Yvan Lutumba.
Nous avons voulu dire à la femme qu'elle ne doit pas rester bras croisés. Au moment de guerre, la femme peut participer. La femme peut soutenir son pays à travers les femmes des militaires qui sont restées dans les camps. Elle peut même confectionner des vêtements des militaires qui sont au fond là-bas et puis d'autres choses. Et ici, notre autorité morale a voulu aussi montrer aux mamans, aux femmes, que le fait d'être en ville ne fait pas d'elles des exceptionnelles. Elles peuvent nourrir leur famille, elles peuvent nourrir la ville. Il nous a donné les semences, les outils de champ pour faire les jardins. Après cette manifestation, nous allons descendre dans des interfédérations pour amener le message de notre autorité morale, expliquer réellement ce qu'elles vont faire à travers les outils qu'on leur a accordés, l'entrepreneuriat.
Norbert Basingizi Katintima espère que ces outils vont permettre aux femmes de devenir autonomes. Il encourage par ailleurs le débat sur l'article 14 de la Constitution sur l'égalité hommes et femmes au niveau du Parlement. Parlons santé dans ce journal. Deux journées de consultations gratuites ont été organisées au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa dédiées à la sensibilisation sur la santé mentale et la santé du cerveau. Ces consultations ont tenu le 27 et 28 mars témoignent de l'engagement du CNPP à servir la communauté et à affirmer son rôle clé dans le développement social et médical de la RDC. Cet événement a été accueilli avec enthousiasme par les habitants qui ont répondu présent. Benjamin Moudoumbi nous en parle dans ce reportage.
Des centaines de personnes ont afflué pour bénéficier de services offerts. En fait, les effets de guerre, par exemple, peuvent être le mobile des troubles neurologiques. Et c'est ce qui est à la base de l'initiative, souligne le médecin directeur, professeur Daniel Okitundu.
Nous avons compris qu'il était très important de faire quelque chose, informer et sensibiliser. À cause des effets de la guerre, il y a des gens qui sont en détresse psychologique, qui peuvent avoir des troubles mentaux et des comportements.
Malheureusement, certaines personnes sont toujours hésitantes, d'où l'appel du docteur Grace Bilungula.
Le CNPP, ce n'est pas un hôpital des fous. C'est un hôpital avec différentes spécialisations. Nous avons les neurologues, les psychiatres qui s'occupent de la santé mentale, des psychologues, des kinésithérapeutes, des assistants sociaux, des logopèdes qui s'occupent du langage. On a autant de spécialités pour pouvoir aider les gens et les prendre en charge.
Ceux qui se sont fait consulter pendant cette campagne, j'ai de fleurs au CNPP.
J'ai été déprimée, c'est pour ça que je suis venue pour me consulter. Après être consultée, on nous a donné le médicament gratuitement et puis après on m'a dit de repasser dans un mois.
À travers ces consultations gratuites, le CNPP a réaffirmé son rôle crucial dans la prise en charge des troubles mentaux et neurologiques vu le besoin.
Actualité internationale.
Situé dans l'est du Burkina Faso, le camp militaire de Diapaga a été attaqué par un groupe terroriste armé dans l'après-midi du vendredi dernier. Le bilan humain est très lourd avec environ 50 morts parmi les soldats et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Arrivés en grand nombre à moto, les assaillants ont encerclé la ville et ont commencé à tirer, forçant tout le monde à se mettre à l'abri. Selon des témoins qui décrivent une situation très tendue, des tirs ont ensuite retentit près du camp, obligeant les soldats à abandonner leur position après avoir tenté de résister. Les terroristes se sont alors emparés des armes et des munitions avant de mettre feu à ce qui restait, selon une source locale qui a visité le site le lendemain de l'attaque. Le ratissage effectué après l'assaut a permis de retrouver les corps sans vie d'au moins 30 soldats. Les VDP qui étaient en formation à l'intérieur du camp ont perdu 22 de leurs camarades qui ont été inhumés hier. Samedi, en Thaïlande, le bilan du violent séisme qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande vendredi dernier s'est alourdi à 17 morts à Bangkok, ont annoncé ce dimanche les autorités de la capitale thaïlandaise. L'autorité de Bangkok a précisé que 32 personnes avaient été blessées et que 83 autres étaient toujours portées disparues, la plupart ayant été ensevelies par l'effondrement d'une tour de 30 étages en construction dans un quartier de la capitale.
L'invité.
Vendredi 28 mars, le chef des forces de la défense de la SADC et le leadership de l'alliance Fleuve Congo M23 ont signé à Goma un accord concernant les modalités du retrait de la force régionale de la SADC, la SAMI DRC, de la ville de Goma. Quelle analyse peut-on faire de cet accord? Pour répondre à cette question, nous recevons Onesfor Sematumba, analyste senior pour la région de Grand Lac au sein de l'organisation International Crisis Group. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Onesfor Sematumba, bonjour.
Bonjour Rosalie.
Sur les plans diplomatiques, que représente l'accord que les M23 vient de conclure avec les forces de la SADC?
Cet accord n'est ni un accord diplomatique, ni un accord politique. Je dirais que c'est plutôt un accord technique. Mais sur le plan diplomatique, il faut savoir que la décision de mettre fin à la mission de la SAMI DRC, donc la force de la SADC, et l'ordre de retrait progressif de leur contingent, eh bien, cette décision a été prise lors d'un sommet virtuel auquel tous les chefs d'État de la SADC, y compris le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ont participé. C'était le 13 mars 2025. Ça, c'est la décision politique. Donc, le contingent de la SADC devrait se retirer d'une zone sous contrôle du M23, c'est-à-dire hors du contrôle de Kinshasa. La mise en exécution technique d'une telle mesure, la sortie immédiate, progressive, devait donc se négocier avec la partie qui contrôle sur le plan opérationnel cette zone. En l'occurrence, c'est le M23 AFC. On n'aurait pas demandé au FARDC de venir permettre à ce contingent de la SADC de quitter Goma. Et cette partie technique a été faite par les chefs militaires de la SADC d'un côté et de la FCM23 de l'autre côté. Bon, sous le regard de quelques cadres politiques, notamment les gouverneurs du Nord Kivu, d'une part, et les directeurs de l'organe en charge des affaires politiques, défense et sécurité de la SADC, d'autre part. C'est tout à fait clair, on ne devrait pas continuer à se poser des questions. Pourquoi l'accord d'entrée a été signé par Kinshasa, maintenant c'est la rébellion qui signe la sortie? Non, c'est deux niveaux différents. Sur le plan diplomatique, Kinshasa a été associé, et on ne peut pas imaginer que la SADC a envoyé des généraux zambiens, sud-africains, etc. à Goma sans l'accord de Kinshasa. C'est inimaginable. On ne devrait pas trop spéculer, comme j'ai vu des gens perdre beaucoup d'énergie autour de cela.
Et dans ce contexte, que doit faire le gouvernement congolais très engagé dans la recherche des solutions à cette crise?
Pour moi, le premier constat à tirer de cette réunion de Goma est du retrait imminent des troupes restante de la SAMIDRC, après le départ précipité des mercenaires, après le redéploiement des Burundais vers leurs frontières. Tout cela donne des leçons au gouvernement congolais. C'est que la stratégie militaire a montré ses limites. Le pays reste seul, je dirais. Le Congo fait face à ses responsabilités et doit trouver des moyens autres que militaires pour mettre un terme définitivement à cette guerre. Concrètement, le gouvernement devrait poursuivre son engagement dans la voie diplomatique et la négociation avec tous les acteurs impliqués dans cette crise, au niveau interne et au niveau régional.
Quelles actions recommandez-vous aux acteurs régionaux et internationaux afin de soulager la population de l'Est qui subit directement les conséquences de la crise actuelle?
Parce que nous parlons des négociations, ce sont des choses qui durent. Donc, ce que nous recommandons à tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux qui veulent ou qui prétendent vouloir mettre un terme à cette crise, c'est justement de placer au centre de toutes leurs initiatives les souffrances des Congolais et leur soif de vivre en paix, comme tous les peuples du monde. En voyant ce qui se passe dans la diplomatie, on se rend compte que les puissances se font la guerre pour mettre un terme à la guerre du Congo. Les efforts sont concurrents au lieu d'être complémentaires. Mais pour commencer, tous les efforts devraient converger vers un résultat urgent, un cessez-le-feu immédiat et durable, pour que les Congolais ne continuent pas à vivre la peur au ventre et les bagages sur la tête sur le chemin de l'exil.
Monsieur Onesforce Matumba, je rappelle que vous êtes analyste senior pour la région des Grands Lacs chez International Crisis Group. Merci.
Je vous remercie.
Onesforce Matumba, interrogé par Rosalie Zawadi. C'est ainsi que se termine notre journal. Merci de votre fidélité. Nous vous invitons à rester à l'écoute de Radio Capi pour plus d'informations et de programmes passionnants. N'oubliez pas de nous suivre sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Deps Vita assure la mise en onde de coordination. Jude Mister Bilanda et présentation Gisèle Cage. À très bientôt sur la même fréquence.